Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, farfouilleurs d'idées, arpenteurs de l'esprit et corps en phosphorescence. Bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse de ce jeudi. Aujourd'hui, on ne laisse au repos ni notre cerveau, ni notre capacité d'agir, et on parle d'éducation populaire, d'atelier philo, de café philo, et d'arpentage. C'est lecture collective d'ouvrages avec notre invité, Sébastien Jarbonnier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en philo à l'Université de Lille, et vous ne cessez de vous questionner sur ce que peut la philosophie. C'est le titre de l'un de vos ouvrages, paru au Seuil en 2013 déjà, et sur son rôle émancipateur. Et vous avez mis en place ici au Vence depuis l'année dernière à la fois des séances d'arpentage avec Vivi et des cafés philo. Et on va en parler dans un instant après l'agenda. Alors pour faire un café philo, il faut des connaissances et un café. Dans l'agenda d'aujourd'hui, on commence donc par le premier. Ce jeudi 22 avril... Avril, pourquoi donc ? Un besoin de printemps, je pense. Ou une précocité. Ce jeudi 22 février, en début de soirée, à partir de 19h, à la librairie du Château, il y aura une conférence sur l'histoire de la littérature française, animée et présentée par Jean-Michel Mila, qui est un passionné d'histoire et littérature. Alors, on n'est pas dans l'éducation populaire, mais dans une version animée, joyeuse, un peu ludique des savoirs. En tout cas, c'est ce que va proposer Jean-Michel Mila, puisqu'il commentera d'abord l'histoire de la littérature française, alors attention, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, en un peu plus d'une heure. Donc c'est assez audacieux de sa part. Et ensuite, il y aura un jeu d'échange et de questions-réponses avec le public qui pourra aussi tester ses connaissances en compagnie donc de cet albenacien qui est un passionné de littérature, Jean-Michel Mila. Donc ça, c'est à la librairie du Château. C'est gratuit, c'est à 19h et c'est ce soir. On poursuit par le deuxième ingrédient nécessaire, hein, je vous rappelle la recette pour un café philo, après ou avant les connaissances, enfin en même temps en tout cas, mais il faut du café, un café ou l'apéro en tout cas. Et ce soir, toujours à 19h, mais non pas à Aubenas, mais à La Blachère, à La Passerelle, le bistrot culturel de La Blachère, donc La Passerelle, il y a le premier apéro nomade pour venir échanger, raconter une anecdote, trouver des conseils, des bons plans, si vous avez un projet de voyage, ou si vous ne l'avez pas encore d'ailleurs, et que vous souhaitez en discuter autour d'un verre et de quelques grignotes, venez. Donc à La Blachère, à La Passerelle, à 19h. C'est un nouvel événement mensuel qui sera diffusé en direct sur Allo la Planète, les amis d'Allo la Planète qui sont maintenant là-bas. Il y aura un petit moment d'ouverture de leurs nouveaux locaux et on aura l'occasion d'en reparler. Donc ça, c'est ce soir à 19h à La Passerelle. Et les amis de La Passerelle ne se laissent pas de répit, puisque le lendemain, c'est-à-dire vendredi, il propose de découvrir Bobé. Bobé, c'est de la chanson Kraft et du slam de poche. Bobé, c'est de la guitare, voix, ukulélé. Et puis, il forme un duo avec Fanny Ballet à la basse, au synthé, au sansa. C'est un petit mixte de mots chantés, slamés, avec une mélodie minimale et des rythmes chaloupés. C'est concert à partir de 20h30 vendredi, l'entrée est à 5€. Bien sûr, c'est à La Passerelle, donc il y a à boire et il y a la petite restauration sur place. Samedi 24 février à 14h dans la salle municipale de la Grande Fonte à Joyeuse va se créer un collectif pour protéger les garrigues du Sud-Ardèche contre les projets de parcs photovoltaïques au sol. On a déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet ici. Et en amont de cet après-midi, donc samedi à 14h, un questionnaire de préparation avec quelques questions stratégiques, notamment est-ce que le collectif doit promouvoir des usages alternatifs pour l'implantation des panneaux photovoltaïques, comme par exemple des coopératives villageoises. Est-ce que le collectif doit aborder la question de l'agrivoltaïsme? Bref, si toutes ces questions vous intéressent, allez sur la page Facebook de l'association, de l'association Payolive, pardon, pour répondre à ce questionnaire et pour trouver tous les renseignements. Pour terminer, une proposition pour les enfants, parce que c'est les vacances de février et que la médiathèque de Montpezat, qui est bien active, propose un cycle de 3 ateliers sur la programmation informatique. Ça commence samedi matin, de 10h à 12h, avec « Programme ton parent ». Oui, « Programme ton parent », pour jouer et s'initier en famille à la programmation informatique. Il y aura un autre atelier mercredi après-midi, avec « Deviens un robot ». Et enfin, vendredi, un dernier pour créer son jeu vidéo grâce au logiciel Scratch. L'idéal, c'est de venir aux 3 séances, mais bon, vous pouvez quand même venir à l'un des 3 ou à 2 sur 3. L'entrée est libre, bien sûr, et les inscriptions se font auprès de la médiathèque. Programme ton parent, devient un robot. Alors, ça m'a laissé perplexe, avec plein de questions. Évidemment, l'équipe de la médiathèque joue avec malice sur le second degré, mais ça ouvre évidemment des réflexions sur ce pan immense de l'intelligence artificielle, ou plutôt de l'intelligence analytique artificielle. Sujet auquel se frotte d'ailleurs une autre médiathèque, celle d'Aubenas, avec les ateliers IA, animés par Cédric, le passionné. Le prochain, ce sera le 15 mars. Bref, toutes ces questions ont aiguisé mon appétit de connaissances, de réflexion, et ça tombe bien, on retrouve, après un peu de musique, notre invité Sébastien Charbonnier. Baby Hue, California Dreaming, une version instrumentale de 1971, et c'est le choix de notre invité Sébastien Charbonnier. Alors pour penser, c'est vrai que c'est pas mal de se mettre dans une bonne énergie. Vous m'aviez dit, oui, ça va nous mettre en joie. Penser dans la joie, c'est important.
Oui, alors là, vous posez la question à un spinoziste. Et pour Spinoza, la joie, c'est non seulement c'est agréable affectivement, mais c'est même une condition de la pensée rationnelle et critique. Donc, pas de pensée juste sans joie. Donc, c'est pas juste pour le plaisir ou pour être sympa. C'est essentiel.
Ouais. C'est essentiel. On parle donc aujourd'hui éducation populaire, atelier, enfin café philo, arpentage avec vous, Sébastien Charbonnier, qui vous nous proposez d'assouplir nos articulations argumentatives, muscler notre esprit critique, peut-être, aiguiser notre regard, en tout cas, entretenir notre capacité d'agir. Vous êtes enseignant-chercheur, je le disais en introduction, vous êtes enseignant-chercheur en philo à l'Université de Lille, mais vous ne cessez de questionner ce que peut la philosophie à l'intérieur de l'institution scolaire et en dehors, et vous ne cessez aussi de questionner le rôle émancipateur de la philo. Alors vous avez mis en pratique vos questionnements ici en Ardèche, où vous vivez une partie de l'année depuis 3 ans, en mettant en place à la fois donc, des séances d'arpentage avec Vivi et des cafés philo. Alors on va aller directement dans le vif du sujet. On va commencer par peut-être les séances d'arpentage, puisque la dernière a eu lieu il y a quelques jours.
Avant-hier. Mardi soir.
Simplement, reprécisons, qu'est-ce que c'est les séances d'arpentage ?
Eh bien, l'arpentage, c'est une technique que l'éducation populaire s'est réappropriée depuis quelques décennies, mais qui nous vient en fait de l'histoire ouvrière au XIXe siècle. Les ouvriers ont vite et bien compris que le savoir, c'était du pouvoir. En tout cas, les bourgeois avaient des livres. Et ils avaient l'air d'apprendre des trucs dedans qui leur permettaient de faire certaines choses et de comprendre certaines choses qui échappaient à la sagacité des ouvriers. Donc ils se sont dit, on va essayer de nous, avec nos moyens, parce que les livres c'était très cher au XIXe siècle, de les lire autrement. Et donc l'idée ça a été, on prend un livre, on se met à plusieurs le soir dans un estaminet et on essaie de le décortiquer. Et donc l'éducation populaire a repris cette perspective en se disant, on peut organiser une séance comme ça où à 5, 10, 15, on ne peut pas non plus être trop nombreux, ou alors faut changer un peu les modalités de fonctionnement, on va prendre un livre et on va le lire ensemble. Mais c'est pas juste lire ensemble au sens où quantitativement à 15 on va aller plus vite que tout seul, mais c'est aussi lire autrement. C'est-à-dire qu'il y a aussi une réflexion sur qu'est-ce que lire, est-ce qu'on lit pour transformer le monde ? Et oui, répond l'éducation populaire, donc c'est vraiment voir le livre comme un outil de lutte, et aussi comment est-ce qu'on peut lire malgré peut-être le traumatisme que l'école a constitué dans notre rapport au livre et à la lecture. Donc il y a aussi une réflexion sur la manière de lire, ce qui fait que normalement tout le monde peut se sentir à l'aise dans le dispositif, quel que soit son rapport au livre. Donc il ne faut pas avoir peur de venir dans un arpentage sous prétexte de se dire « mais moi je lis pas » ou « j'ai pas l'habitude de lire, donc je vais gêner le collectif » ou « je vais me taper la honte parce que je ne saurais pas comment faire ». C'est le principe de l'éducation populaire, c'est aussi d'avoir des outils, des manières d'animer qui permettent d'accueillir tout le monde.
Et là, aujourd'hui, donc au vent, ça fait... depuis l'année dernière, je pense.
Oui, on a commencé au printemps avec Vivi, on a fait une première série en mai-juin. Elle a pu continuer à l'automne, c'est le moment où moi je dois m'absenter de l'Ardèche, et là on reprend à deux en alternance, à partir de maintenant.
Et est-ce que vous avez pu vérifier ça, enfin voir qu'il n'y a pas effectivement de frein parmi les participants, c'est-à-dire que c'est peut-être ceux qui ne viennent pas qui ont un frein qui fait qu'il y en a.
Oui, voilà.
Mais est-ce que parmi les participants de ces arpentages, il y a vraiment des gens pour qui c'est la première fois qu'ils découvrent, qui n'ont pas du tout l'habitude, qui ne sont pas initiés ?
Il y a des... Alors ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a des... il y a déjà des habitués, ou en tout cas il y a des têtes qui reviennent, donc ça veut dire que ça plaît, ou en tout cas ça trouve son sens. Mais à chaque fois, il y a aussi des personnes pour qui c'est la première fois. Alors dès qu'on est un peu nombreux, et puis c'est mieux, de toute façon la lecture se fait en mini-groupe. Par deux ou trois, quatre si vraiment il y a beaucoup de monde. Donc pour une personne pour qui ce serait le premier arpentage, c'est aussi rassurant parce qu'après c'est le groupe qui va partager sa lecture à l'ensemble du groupe. Donc ça peut permettre de se mettre un peu en retrait la première fois si on n'est pas forcément à l'aise. Parce que la technique d'arpentage, on va dire à l'origine, c'est vraiment une personne lit 5-10 pages, donc on est seul, et au moment où on se retrouve tous ensemble, bah la personne est seule face au groupe par rapport à ce qu'elle a lu, ce qui peut être plus intimidant. Donc c'est à la fois un aménagement qui rend le dispositif plus accessible et en plus qui s'accommode mieux du succès ou en tout cas d'un nombre de participants plus important.
Parce que le collectif et le penser avec, penser ensemble, c'est un peu ce qui est au cœur à la fois des cafés philo, d'ailleurs, c'est se confronter à la pensée des autres, qui n'est peut-être pas la sienne, et on l'espère. C'est ça qui est aussi très important dans ces séances d'arpentage, c'est le côté collectif en commun.
Oui, et en plus c'est un certain imaginaire politique du collectif, parce que se confronter à l'autre, c'est pas au sens antagoniste ou au sens de la joute ou du débat. Un débat vraiment au sens étymologique qu'il a de commun avec combat, hein, c'est-à-dire le débat contradictoire. Toi tu penses ça, moi je suis pas d'accord, puisque typiquement dans l'arpentage, on a de la connaissance qui débarque avec le livre. Donc on n'est pas forcément obligé de venir avec des connaissances. D'ailleurs, je relève ce que tu as dit, pour faire un café philo, faut des connaissances. Même pour le café philo, il n'en faut pas forcément. Mais bon, pour l'arpentage, les connaissances, le livre les amène. Et l'idée, c'est de penser, de se confronter à ces idées-là, mais dans la mesure où elles nous donnent à penser. C'est-à-dire qu'une des techniques de lecture que permet l'arpentage, qui est antiscolaire, c'est on ne s'intéresse pas à ce qu'a voulu dire l'auteur. Mais on s'intéresse à ce que je comprends en lisant l'auteur, c'est-à-dire ce que ça me donne à penser. Donc c'est pas ce que je pense déjà, mais c'est ce que je pense au contact de la pensée de l'autre. Donc c'est aussi une confrontation qui est de l'ordre du avec et pas du contre.
C'est une relation.
C'est voilà, c'est une relation de co-transformation. Alors forcément, l'objet écrit fait que l'auteur ou l'autrice en sortira pas forcément transformé. Mais c'est même des choses qui peuvent arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des retours d'expérience d'arpentage à l'auteur ou à l'autrice. En disant, ça, on a arpenté ton livre et tout. Des fois, pour dire, il se prête trop bien à l'arpentage. Bravo. Et j'ai déjà entendu dire des auteurs ou des autrices que la structure ou la conception du livre, son chapitrage, avait été pensé pour être compatible avec l'arpentage. Donc ça peut, voilà, maintenant, ça restera, mais chez certaines personnes qui connaissent ce dispositif-là, elles peuvent avoir ça en tête, notamment pour les essais, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'en arpentage, on fait surtout des essais de sciences humaines, de lettres et sciences humaines, des essais politiques, des essais critiques. Je sais pas si ça marcherait pour des romans ou de la poésie, mais en l'occurrence, les arpentages, c'est sur des essais.
Oui, parce que là, ce que vous avez mis en place avec Vivi depuis le printemps dernier, c'est vraiment des avantages autour de textes engagés et sur une thématique. C'est les enjeux de
Tout à
pouvoir.
fait. Oui.
Vous aviez notamment, par exemple, l'année dernière, parlé de, je ne sais pas où j'ai pris mes notes, il y avait un livre de Sophie Galabru.
Le visage de nos colères.
Voilà, Le visage de nos colères. Il y avait Amine Malouf aussi, Les identités meurtrières. Pourquoi ce choix des enjeux de pouvoir?
Parce que c'est important. Ça nous intéresse déjà, il y a ça. C'est une proposition qu'on fait. Enfin, c'est important de l'amener avec du désir. Donc c'est des thématiques qui nous intéressent, Vivi et moi. Donc c'est plus facile de choisir des livres ou d'être enthousiaste dans la présentation et l'animation de l'arpentage. Et puis ça répond aussi à une demande. Enfin, il y a une bah typiquement dans les rapports de pouvoir, il y a les rapports sociaux de sexe. Et depuis MeToo, c'est vrai que cette question-là redevient est réappropriée de manière plus large dans le débat public. Parce que voilà, le féminisme, au sens vraiment d'une théorie politique militante en France, a connu une période beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins diffuse dans les années 80-90, par rapport à ce que ça avait été dans les années 60-70. Et là, aujourd'hui, ça revient beaucoup. Et il y a d'autres rapports de pouvoir. Il y a le rapport, évidemment, il y a la question du racisme. Il peut y avoir les rapports d'âge. Ça, c'est des rapports sur lesquels moi je travaille, mais qui sont encore. peut discuter, mais avec la question de l'inceste et deux grands romans qu'on fait parler, Le consentement et la famille Grandes, et puis le rapport de la Civise qui est tombé là à l'automne sur l'ampleur du phénomène. Il y a la question du validisme, comment on se comporte avec les personnes en situation de handicap. Il y a plein de le centre urbain versus le milieu rural. Et c'est souvent une manière aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul avec ses problèmes, parce que aborder les rapports de pouvoir, c'est poser des problèmes du point de vue des rapports sociaux et pas du point de vue de ma personne, ma psychologie, mes défauts personnels. Donc ça permet souvent de repenser des problématiques très concrètes de manière moins culpabilisante, moins individualisante et donc plus incapacitante.
Ouais. Alors là, on n'est pas sur du café philo, c'est peut-être... parce que j'allais poser la question de est-ce que la philosophie est un bon outil pour penser, pour réfléchir sur ces questions-là ?
Alors moi, je vais prêcher pour ma paroi du point de vue de la discipline. C'est non seulement un bon outil, mais c'est un outil indispensable. Moi, je travaille en philosophie et en sciences de l'éducation. C'est aussi pour, je travaille en fait en philosophie de l'éducation, donc je suis à cheval sur les deux disciplines. Donc je suis habitué à lire d'autres disciplines et c'est génial. Enfin, la bonne philo aujourd'hui fait ça. La mauvaise philo, entre guillemets, se replie sur elle-même, mais on ne peut plus faire de philo sans lire de l'histoire, de la socio, de l'anthropo, de la géographie, de la psychologie. C'est absolument fondamental. N'empêche qu'en philosophie, on a quand même une habitude de travailler le concept et de voir en fait le sens. Et aussi une vigilance sur comment est-ce que les choses sont construites. Et donc des fois, il y a des travaux en sociologie qui peuvent être très intéressants, mais quand on a un peu l'habitude de mettre les mains dans le cambouis, on se dit « Ah oui, mais en fait, les données, celles qui vont passer pour une vérité empirique, incontestable parce que les faits sont les faits, elles ont été construites d'une manière qui prend pas ou qui pose mal le problème ou qui présuppose quelque chose, etc. » Et typiquement, dans les rapports de pouvoir, on peut difficilement comprendre des phénomènes juste à coup de statistiques ou d'enquêtes si on n'est pas vigilant sur comment les choses ont été construites ou si on ne pose pas bien le problème. Donc on ne peut pas se passer de la philo dans ces questions-là. D'autant plus qu'il y a aussi des formes de questions qu'on a envie de se poser et qui pour l'instant sont encore très difficiles à enquêter empiriquement.
Par exemple ?
Par exemple, quand un phénomène est tellement invisibilisé socialement qu'on n'a pas de données ou quand la loi est tellement injuste, par exemple, les enfants, on ne peut pas se dire « Est-ce que les enfants sont heureux en famille ? Regardons le nombre d'enfants qui portent plainte. » Non, parce qu'un enfant ne peut même pas porter plainte parce qu'il est mineur. Donc, la question du viol qui est bien connue, on a une augmentation des plaintes pour viol et qui a été beaucoup plus précoce dans les pays d'Europe du Nord. Ça ne veut pas dire que dans les pays d'Europe du Nord, les femmes se font plus violer. Aujourd'hui, c'est interprété clairement comme la libération de la parole a été... c'est fait plus tôt en Suède et en Norvège, mais si on analysait bêtement les chiffres, on dirait, oh mon Dieu, il ne fait pas bon être une femme suédoise parce qu'il y a beaucoup plus de viols en Suède. Non, c'est la visibilité du phénomène est meilleure en Suède qu'en France. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui fait que si on n'a pas, si on n'essaie pas de comprendre comment sont construits les faits ou si on n'essaie pas de comprendre ce qu'on met derrière le concept, on ne peut pas juste se contenter des chiffres de l'INSEE ou des déclarations du gouvernement. Il y a plein d'exemples, le chômage, les sociologues sont les premiers à dire le chômage, ça va aller du simple au double selon la définition que vous donnez du chômage. Évidemment, le gouvernement va toujours choisir la définition la plus restrictive pour dire, regardez, c'est merveilleux, il n'y a pas de chômeurs. Un sociologue un peu sérieux qui veut travailler sur le phénomène du chômage a une toute autre définition et d'un seul coup, le nombre de chômeurs et de chômeuses en France double.
De l'importance, effectivement, du concept, de la définition, de déconstruire un petit peu les présupposés.
Ouais. C'est vraiment, ça donne du sens. Parce que souvent, les gens, quand ils entendent définition, ils disent, oh là là, on va jouer, c'est bon, ok, le dictionnaire donne des définitions. Ouais. C'est vraiment pas un mot qui fait rêver. Mais en fait, c'est le sens, c'est la question du sens. Et des fois, redéfinir un mot, ça fait regarder autrement une activité, ça fait regarder autrement un événement qui s'est passé dans son existence. Donc ça a des vrais enjeux pratiques, des vrais enjeux concrets, d'où la perspective émancipatrice. De ce type d'activité.
Mardi dernier, vous avez sorti comme livre « Faire justice » d'Elsa Deck-Marceau, c'est un ouvrage qui a fait assez sensation dans les milieux associatifs, contre une justice punitive, pour une justice transformative. transformative, oui.
Transformatrice. Bon, Trice, en l'occurrence, c'est...
En dehors de l'institution judiciaire, ouais. D'après ce que j'ai pu lire ou entendre d'elle, comment ça s'est passé, cet arpentage ?
Eh ben, en fait, il se passe plusieurs choses. Dans le moment de la restitution, il y a une trame pour que les gens se sentent un peu accompagnés et que le cadre les aide à pas se dire qu'est-ce que je vais raconter. Et le premier moment de cette trame, c'est de prendre le temps de partager ce qu'on a ressenti en lisant les pages. Chose typiquement que l'école, dont l'école se moque. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme émotion en lisant ces pages-là? Et là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur à la fois de la colère, de la tristesse et de la déception, de se dire même dans des milieux progressistes, féministes, de lutte antiraciste ou dans des milieux écologiques qui ont des belles idées, qui veulent que les choses s'améliorent, on est capable du pire. Et donc là, il y a eu de la colère et en même temps du soulagement, atypiquement de pouvoir mettre des mots sur des choses qui avaient été vécues. La réception du livre à l'échelle française se fait beaucoup, j'ai souvent entendu ça, et là ça s'est joué pendant l'arpentage. On a enfin des mots sur quelque chose qu'on a vécu dans telle association, au boulot, etc. Et ça fait du bien de le comprendre, là aussi, de manière politique et pas individuelle.
Parce que là, il faut juste repréciser pour que les auditrices et les éditeurs comprennent bien le propos du livre d'Elsa Deck-Marceau. C'est-à-dire que même, vous le disiez, elle prenait, je pense, l'exemple de ce député de la France insoumise qui a été accusé de viol par sa compagne, et donc l'une des solutions proposées par le mouvement, c'était une solution violente, une solution punitive. C'est un peu...
Alors, c'est un sujet compliqué. Donc, c'est Adrien Quatennens. Bon, en l'occurrence, c'est Adrien Quatennens, c'est rigolo, parce que là où, quand je vis à Lille, c'est mon député, entre guillemets, c'est la circonscription. À mon avis, c'est un exemple difficile. C'est un exemple compliqué parce que c'est une personnalité publique et politique. Donc, ça pose d'autres enjeux. Et à mon avis, les arguments qui justifieraient d'avoir un traitement plus sévère pour lui sont entendables aussi. Parce que c'est pas un citoyen lambda. C'est pas forcément en tant que citoyen, mais en tant qu'élu, qu'une certaine sévérité pourrait se justifier. Alors que la plupart des cas qu'elle analyse sont, entre guillemets, à une échelle beaucoup plus locale et en tant que citoyen-citoyenne. Et donc ça va par exemple être la question de il y a eu un problème de l'ordre de l'insulte, de l'agression, de la violence au sein d'un groupe, donc une injustice a eu lieu, et comment est-ce qu'on fait justice? Et le constat qui s'est fait aux États-Unis où la question du recours à une justice non institutionnelle est paru nécessaire, c'est que pour des raisons diverses ce serait l'enfer d'aller porter plainte à la police. Parce qu'on est noir, parce qu'on est une femme et qu'il y a encore des policiers misogynes. La procédure institutionnelle, elle est longue, un avocat, c'est payant, etc. Donc il y a plein de bonnes raisons qui font où on a envie que ça se passe de manière moins publique, de vouloir se passer de la justice institutionnelle. Sauf qu'à partir du moment où on se passe de la justice institutionnelle, on est un peu sans filet, quoi. On va devoir inventer. Et ce qu'elle constate, c'est que à partir du moment où on invente, eh ben finalement, on n'a pas beaucoup d'imagination. C'est-à-dire qu'on fait vraiment la justice la plus archaïque, la loi du talion, du punitif, et donc des choses en fait qui sont souvent en totale opposition avec les valeurs que par ailleurs va défendre le collectif. Et donc c'est un peu cette impensée qu'elle a voulu creuser. Comment se fait-il que là, d'un seul coup, une sorte de retour du refoulé? Et c'est vraiment les choses les plus barbares et les plus impensées qui sont mises en œuvre, des fois un peu pulsionnelles aussi, ça peut aller du côté de la vengeance, une pulsionnalité de vengeance, et des choses qui sont pas forcément au service de la victime d'ailleurs, hein, parce qu'on pourrait dire ok, on est trop dur avec l'agresseur, on en fait trop pour la victime, parce qu'il y a des cas où finalement le collectif prend la place de la victime et finalement fait taire la victime. C'est quand même un comble, c'est-à-dire que la victime a déjà subi quelque chose et en plus on va dire t'inquiète, on s'en charge, et donc on silencie la victime. Donc voilà, des fois ça peut vraiment donner des procédures dysfonctionnelles de faire justice.
Il y aura un prochain arpentage, vous connaissez le thème ?
Alors, comment on le fait en alternance ? Et Vivi Dixit, c'est elle qui l'a dit mardi soir, parce qu'on lui a posé la question, elle aime bien improviser, ou être en dernière minute, je ne peux pas annoncer le prochain arpentage, par contre je peux annoncer le prochain, puisque ce sera moi qui l'organiserai. Et vu que là, il y a eu des petites difficultés sur, c'était un peu trop dense, ou des fois un petit peu trop long, j'ai décidé de faire un manifeste, féminisme pour les 99%, qui est un très beau texte coécrit par trois autrices anglophones, qui fait moins de 100 pages et qui est extrêmement extrêmement systémique. C'est ça qui est intéressant. Elles essayent de penser ce que serait un féminisme qui doit être conséquent, et donc ça charrie des questions sur le colonialisme, sur le capitalisme, sur l'écologie, et ça donne une magnifique synthèse sur en quoi en fait, en étant féministe vraiment, on est beaucoup plus que féministe dans ces luttes et dans les causes qu'on défend. Voilà, c'est un super texte qui est écrit de manière très limpide, donc qui va bien s'adapter à l'arpentage, parce que ça, c'est quelque chose auquel on doit penser en tant qu'animateur et animatrice. Et il y a des livres qui se prêtent bien à l'arpentage et d'autres moins, et même des fois des livres qui sont passionnants qu'on aurait envie de faire. Mais si on cède à cette tentation, ça a pu m'arriver dans certains collectifs, on se rend compte que l'arpentage fonctionne moins bien parce que les gens se sont un peu cassés les dents sur une écriture trop difficile.
Donc on en parlera, on parlera du prochain, donc ce sera le prochain, ce sera dans un mois.
Ouais, voilà, si on le fait chacun tous les mois et qu'on est deux, ça veut dire que normalement c'est tous les 15 jours. Après, comme on fait ça de manière informelle et libre, on s'autorise des fois des battements, ou ça dépend aussi de nos disponibilités.
Mais il y aura un prochain rendez-vous, plus prochain que le prochain, c'est le Café Philo. Vendredi.
Demain soir.
Ouais. Demain soir, un mot sur ce Café Philo et sur la thématique abordée autour de l'amitié.
Oui, alors donc, le Café Philo, c'est aussi quelque chose que j'ai expérimenté depuis l'année dernière. Donc c'est au Café à l'Aube, hein, au centre des vents, sur la place Henri Thibon. Et là, pour moi, c'est aussi l'occasion d'expérimenter une technique d'éducation populaire, parce que pour le coup, je suis pas du tout un spécialiste des cafés philo, mais j'ai essayé d'amener des ingrédients à la fois de ma réflexion et de ma pratique d'éduc pop. Donc, j'en profite pour dire tout le monde est bienvenu et qu'il n'y a pas besoin de connaissances, parce que je sais que par le bouche à oreille, il y a des personnes qui m'ont dit être venues parce que d'autres leur avaient dit en fait ça va. Parce que la philo a encore quand même cette image de oh là là, un café philo, même si la thématique intéressait apparemment, il y a des personnes qui s'étaient auto-censurées ou interdites d'y aller par peur de pas avoir leur place, etc. D'autant plus que s'il y a un peu de monde, on passe des moments en sous-groupe et tout, donc on n'est pas tout le temps tous ensemble, ce qui peut être plus intimidant. Et donc j'ai choisi l'amitié parce que c'est un beau thème, et c'est un thème qui revient, en fait. C'est un thème qui revient au sens où est reproblématisé l'importance de l'amitié. Parce qu'en fait, en termes de séquence historique, faut bien voir qu'on sort, pour deux raisons diamétralement opposées, d'une d'une grande valorisation de l'amour. C'est-à-dire que on pourrait dire il y a le côté noble, c'est-à-dire le passage du romantisme anglais et allemand qui a laissé des traces depuis deux siècles, et il y a l'instrumentalisation de l'amour pour des raisons bourgeoises. C'est-à-dire pour vendre le mariage, qui est quand même un contrat absolument abominable, enfin, du point de vue de son état d'esprit, quand il écrit dans le code civil, c'est une appropriation de la femme comme objet et comme corps. Mais pour rendre ça un peu plus sexy, il y a l'amour. Hollywood a beaucoup contribué à valoriser ça, certains romans aussi.
La littérature, oui, c'est ça.
Et donc, il ne s'agit pas de dire que l'amour, c'est nul, mais ça a créé une forme de monopole dans les relations qu'on peut considérer comme donnant sens à notre vie ou hyper valorisante en termes de bonheur et de satisfaction. Alors, si on n'a pas le grand amour, on a raté sa vie, en gros. Et puis les amis, c'est bien, tout le monde en a, c'est gentil. Mmh. Et l'amitié est souvent secondarisée. Et on le voit, par exemple, quand il y a des mises en couple, que les personnes deviennent moins disponibles pour leurs amis. Il y a des personnes qui disent qu'elles ont plus de mal à voir leurs amis quand elles sont en couple, ou alors à les voir seules. C'est quelque chose que souvent, sous prétexte qu'on est en couple, on ramène le conjoint ou la conjointe systématiquement, ce qui peut perturber des histoires amicales qui avaient besoin des fois de ce tête-à-tête ou d'une intimité qui n'est plus trouvée. Et quand je dis que c'est, je pense à deux livres par exemple qui ont pas mal fait parler d'eux, le livre d'une Québécoise qui s'appelle « S'engager en amitié ». Qui est un très chouette livre où elle essaye de réfléchir aux différentes formes d'amitié, l'amitié en colocation, l'amitié dans le sport, l'amitié entre femmes, l'amitié entre hommes, l'amitié amoureuse ou l'amitié avec du désir. Et un livre qui a fait pas mal parler de lui parce que c'est un essayiste qui est assez bon dans les médias, c'est Geoffroy de La Gannerie, qui a écrit un livre qui s'appelle « Trois », je crois, où il raconte son amitié avec Didier Ribon et Édouard Louis. Et il fait ce diagnostic aussi du fait que l'amitié, par exemple juridiquement, est empêchée, dévalorisée. Il donne cet exemple un peu facile, mais qui parlera à tout le monde. Pendant le confinement, on pouvait traverser la France pour la garde alternée d'enfants, mais on n'avait pas le droit d'aller voir ses amis s'ils habitaient dans la rue d'en face. Donc là, il y a un choix politique de dire les relations d'amour, les relations familiales, c'est très important, on ne peut pas s'en passer, mais la relation d'amitié, c'est bon, ça va, quoi. Vous attendrez la fin du confinement pour voir vos amis. Et ça va pas de soi, en fait. On peut pas faire hériter un ami. On peut hériter que le conjoint. Enfin, sans être surtaxé. Donc, c'est des petites choses, etc., qui montrent bien que l'amitié reste une relation, en tout cas, moins mise sur un piédestal. Alors que, ben, elle a plein de qualités. Et c'est intéressant en philosophie. On a une énorme tradition de valorisation de l'amitié. Aristote, Montaigne, etc. Bon, je viendrai pas forcément avec des textes de ces auteurs-là. Mais, et souvent, d'ailleurs, le décalage historique peut faire réaliser ce que ça peut être l'amitié. Il y a une expression de Montaigne, par exemple, qui est célèbre. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et il y a beaucoup de gens, d'élèves ou d'étudiants, qui pensaient que c'était l'amour. Mmh. Il dit, bah non, c'était son pote, c'était Étienne Laboétie, c'était un ami. Mmh. Mais l'amitié, c'était beaucoup plus important au XVIe siècle que ça ne l'est aujourd'hui.
On pourra donc en discuter vendredi, donc demain soir. À l'aube.
Voilà, on se posera des questions.
18h30.
Par exemple, une question que j'ai envie d'aborder, c'est quid de la rupture amicale ? Est-ce qu'une rupture amicale, ça existe ? Est-ce que c'est aussi douloureux qu'une rupture amoureuse ? Donc voilà, venir.
Des chagrins de rupture amicale, et ça existe par exemple chez les enfants.
Les coups de foudre amicaux.
Et les coups de foudre amicaux.
Voilà.
Qu'on perd effectivement dans cet apprentissage des usages sociaux, finalement.
Et puis la question de la fréquence aussi, elle est très intéressante. Souvent, on associe l'amour au fait d'avoir besoin de se voir souvent, et l'amitié à quelque chose qui souffre, au sens qui supporte beaucoup mieux l'irrégularité. Et ça aussi, c'est intéressant à interroger, parce qu'il y a des personnes qui vont dire « Non, moi, mes amis, j'ai besoin de les voir souvent », et d'autres qui vont dire « Bah, c'est ça qui est génial avec les amis, c'est que on se revoit, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, c'est comme si c'était hier ». Donc il y a aussi cette question des rythmes. L'amitié est peut-être une relation qui n'a pas les mêmes rythmes que l'amour, par exemple.
J'ai plein de questions, Sébastien. Mais Sylvain, et non, on a déjà tout. Bon, alors on se posera des questions hors micro. On vous retrouve donc demain au Vence pour ce café philo autour de l'amitié, et puis dans un mois autour des arpentages, et dans 2 semaines avec Vivi. Merci beaucoup, Sébastien, d'être venu.
Merci à toi.
Et surtout, à bientôt, j'imagine, j'espère. À bientôt ici, à ce micro.
Volontiers.
Restez à l'écoute de Fréquence 7 ou pas, mais enfin il y a un beau programme et toujours la meilleure de la musique. À 13h c'est Paroles de citoyennes et citoyens. À 15h c'est le Telex, vos messages au 04 75 93 30 25. À 16h Paroles de citoyennes et citoyens encore. À 17h la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h la collective. J'ai pas le programme, tu as le programme, Sylvain?
Ils vont parler de la journée de la femme.
De la journée internationale des femmes, qui aura lieu le 8 mars, à 19h, Éclectrique, et à 20h, la playlist de mon pote avec Valou. Merci à vous, nous on se retrouve lundi prochain pour une prochaine onde curieuse. Ciao.